draw myself inside.
Sur la nouvelle application Radio Lac.
Tous à poil.
Il suffit de demander.
Il suffit de demander.
Tous à poil, on parle évidemment de nos animaux domestiques chaque semaine avec le docteur Marc-Antoine Bossart, c'est le vétérinaire d'Il suffit de demander, centre vétérinaire des sources à Genève. Bonjour Marc-Antoine.
Bonjour Sophie.
Alors attention, elle n'est pas très sympathique, elle est un peu... On a un peu le frisson quand elle... Quand elle est dans notre appartement, notre maison, c'est la Nosferatu, c'est une araignée. Et si on en parle, c'est parce qu'il y a un rapport, il peut y avoir un rapport avec nos animaux domestiques. Imaginez un chien, un chat qui ont envie de s'amuser avec et qui ont envie de la bouffer, hein, tout simplement. Mon chat, il bouffe tout ce qu'il trouve dans la maison, les petites bestioles. Si jamais elle se défend et qu'elle mord, qu'est-ce que risquent nos animaux domestiques, docteur ?
Je ne crois pas avoir de petits patients, patientes victimes de morsures de cette Zoropsis spinimana.
Oui, cette araignée, quoi.
que tu appelles araignée Nosferatu.
Voilà.
Donc, en me documentant, j'ai pu constater que cet animal est importé des régions chaudes d'Afrique du Nord. Et puis, petit à petit, il est venu en Europe. Et elle s'installe dans nos contrées, principalement en automne, parce que c'est un animal qui aime la chaleur. Et automne, elle s'introduit dans les maisons et appartements.
Absolument.
Elles sont spécifiques de par leur taille, parce qu'elles sont, comme tu disais, des steaks.
Elles sont costauds. Hein,
voilà, avec des pattes assez impressionnantes.
Ça fait un peu peur,
et
d'ailleurs.
Le tout pourrait faire dans les 4, 5, 6 centimètres. C'est assez impressionnant. Bon. Et elles ont cette capacité de morsure, c'est-à-dire de percer la peau de l'homme et de l'animal.
Alors, pour l'homme, c'est une piqûre comme une piqûre de guêpe, au niveau de l'intensité de la douleur. Pour les animaux, qu'est-ce que ça fait ?
Pareil. Ouais. Et donc, dépend aussi, bien sûr, de la taille de l'animal. Plus l'animal est petit, plus il pourrait en souffrir. Comme tu disais, Sophie, c'est comparable à une piqûre de guêpe. Donc, il y a des animaux qui sont très sensibles, qui sont même allergiques. Mmh. Et pour cela, eh bien, oui, il faut consulter.
Ouais.
En dehors de la douleur momentanée, la plupart de nos animaux, chats et chiens, s'en sortent plutôt bien.
Ça va, donc pas d'inquiétude.
Un animal peut être, ou un homme peut être allergique, et là, oui, il faut consulter,
c'est sûr. En tout cas, si vous envoyez une dans la maison, soit vous la chassez gentiment forcément vous la remettez dehors. Oui. Soit vous l'écrasez, vous faites ce que vous voulez. Hein,
la particularité, c'est qu'elle ne tisse pas de toile.
Exact.
Voilà. Ouais. Donc, elle chasse la nuit d'autres insectes. Donc, elles sont quand même utiles dans une certaine mesure.
Elle bouffe tout ce qu'elle trouve en insecte dans la maison. Exactement. Les moustiques et tout, il n'y a pas de souci.
Voilà. Mais la morsure peut être douloureuse. Ouais. Et puis, dans certains cas, oui, nécessiter une consultation. Oui,
Nosferatu.
Alors, Nosferatu, pour l'image, le dessin qu'elle a sur elle, qui ressemble au masque du vampire.
Oui, c'est ça, c'est l'araignée vampire en quelque sorte. Eh bien, merci beaucoup, Marc-Antoine Bossart. Vous êtes notre vétérinaire et on se retrouve la semaine prochaine. Et bien sûr, en podcast sur la page, il suffit de demander radiolac.ch.
Le meilleur de Lac, en replay, sur radiolac.ch.
Fabien et Carole, on parle de quoi aujourd'hui ?
On parle de quoi aujourd'hui ?
Oui, de quoi parle-t-on ce matin, Carole ?
De ces choses qui nous empêchent de dormir et surtout des aliments, parce que souvent, on pense à plein de choses, on pense déménager complètement sa chambre, à faire un truc un peu feng-shui, à dormir la tête au nord. Bref, si vous avez tout essayé, si vous n'arrivez pas à vous endormir, eh bien regardez un petit peu ce que vous ingérez avant d'aller dormir. T'es un petit peu de ce genre, toi, à faire attention à ce genre de choses ?
Pas spécialement. J'évite de faire en sorte que le repas soit collé au moment de s'endormir. Enfin, j'essaye de laisser du temps, parce que je sais que c'est pas très bon d'aller se coucher quand on a l'estomac plein. Mais j'imagine qu'il y a peut-être des aliments qu'il faut éviter.
On ne peut pas tout manger, effectivement, et surtout le soir, si on ne veut pas pas en tout cas que notre sommeil soit impacté. Certains aliments vont contraindre à une activité plus importante. Manger trop, forcément, on le sait, manger trop gras également. Mais il y a véritablement des choses à totalement éviter le soir. Et pour le coup, c'est pas une surprise, mais les pizzas, les burgers sont néfastes totalement pour votre sommeil. Okay. Ouais. Les graisses saturées, forcément, ça on le sait, c'est pas vraiment nouveau, mais ça demande beaucoup plus d'efforts de digestion. D'ailleurs, si le temps entre votre repas et le moment de vous coucher est trop court, hein, ça tu l'as dit, le système digestif va vous tenir éveillé, donc vous n'arriverez pas à vous endormir. Et la pizza, j'étais un petit peu plus étonnée quand même, parce que je suis de nature à plutôt manger une pizza.
Pizza le soir, alors, ça passe bien.
C'est la faute de la sauce tomate pour le coup, ou le ketchup pour les burgers frites, bref, qui vont accentuer ces risques de reflux gastrique du fait de l'acidité. Et c'est cette même cause qu'on va retrouver avec le lait, pourtant très souvent vanté comme un aliment favorable au sommeil. Et pas du tout. Manger très épicé, ça forcément, c'est pas une surprise. Et puis, il y a des choses aussi à éviter, parce que souvent on dit, prends un peu de menthe poivrée, ça ira mieux. Attention, la menthe poivrée peut exciter un petit peu l'estomac et pour le coup, causer aussi des reflux. Ça peut avoir l'effet inverse chez certaines personnes.
Voilà, problème d'endormissement, et bien sachez que ça peut être lié à votre alimentation et notamment à ce que vous mangez le soir. Et puis pour le bien-être de votre couple, si vous partagez votre lit, évitez tout ce qui est poireaux, topinambours, flageolets, ce genre de choses qui peuvent peut-être...
J'ai testé ça il y a deux jours, c'était une horreur.
Peut-être compliquer la nuit de votre partenaire.
Complètement. Ah
ouais. Ou alors
mangez-en tous les deux, et comme ça, ce sera une violence à deux. Voilà.
Donc, c'est les voisins qui vont être contents. Là.
Moi, je suis de la team aussi à manger, tu sais, un petit carreau de chocolat. Je me dis, ah, tiens, je vais me faire un petit plaisir, le petit carreau de chocolat avant de... Tu vois, devant la télé, ça peut être très sympa, c'est toujours très éloigné du repas. Et ça aussi, c'est pas un très très bon compagnon pour s'endormir, le chocolat, malheureusement.
Bon, si vous avez peut-être des aliments secrets, des petites astuces, des aliments qui vous aident au contraire à vous endormir, partagez tout ça sur WhatsApp 079 918 3000.
Toute la nuit,
réécoutez vos émissions préférées sur Radio Lac. sur Radio Lac.
Sur Radio Lac.
Ça se plaît ou pas?
Avec Maître Alessandro De Lucia. Bonjour Maître, de quoi parle-t-on aujourd'hui? Je crois qu'il y a une histoire avec une auditrice qui nous avait envoyé un petit mot. Hein.
Bonjour. C'est ça, ouais. Bonjour Sophie. Oui, un petit mot par rapport à des lunettes qui avaient quelques petits problèmes.
Oui.
Quelques petits défauts. Alors.
Elle avait eu un petit souci avec l'endroit où elle avait acheté ses lunettes.
Exactement. Hein, voilà. Qui a essayé de les réparer, mais en les tordant, en les corrigeant. Et donc, elle nous a un peu demandé ce qu'elle pouvait faire. Donc, évidemment, ouais. c'est un cas un peu abstrait pour ouais. nous parce qu'on n'était pas sur place. Mais ouais. évidemment, il y a une garantie légale du vendeur en raison du défaut de la chose qui est réglé par les articles 197 et suivant du code des obligations. L'acheteur peut faire quoi à ce moment-là? Il peut faire valoir cette garantie quand l'objet présente des défauts qui lui enlèvent ou diminuent sa valeur ou son utilité.
D'accord.
En absence de qualité promise, parce que quand vous achetez quelque chose, vous attendez à ce que ça fonctionne correctement. Ce droit à la garantie n'est valable que contre le vendeur et pour une durée de 2 ans.
Ouais.
Néanmoins, et je le dis de manière un peu générale, c'est une nature dispositive. Ça veut dire que ces garanties, elles peuvent être diminuées ou corrigées dans les conditions générales de vente. Quand vous faites une vente, si vous avez des conditions générales, il faut aller un peu regarder si cette garantie est considérée de la même manière que dans la loi.
D'accord, très bien. On peut faire quelque chose alors?
Voilà, en cas de défaut, la loi offre plusieurs possibilités à l'acheteur. Faire résilier la vente, 205 CO, réclamer la réduction du prix d'achat, 205 CO, ou encore exiger le remplacement de l'objet défectueux, 206 CO. Toutefois, encore une fois, ces conditions ne sont pas de nature contraignante et peuvent être changées par le vendeur.
D'accord, donc la situation peut varier.
Oui, l'acheteur doit s'informer avant chaque achat d'éventuelles conditions générales, Sophie. Mmh. Le cas échéant, les lire soigneusement. S'il existe des conditions générales, ce sont celles-ci qui sont déterminantes
bien
avant
sûr.
Le contrat. Le contrat, si vous voulez, avant la loi, toujours. Sinon, c'est la loi qui s'applique.
Très bien, mais alors qu'est-ce qu'elle doit faire, notre auditrice, hein, que l'on salue?
Alors, on salue notre auditrice
avec ce petit
bruit de perceuse.
On le rappelle, il y a des travaux en ce moment, cette semaine, dans l'immeuble. Allons-y.
On fera une chronique sur le droit du bail la semaine prochaine.
Oui, tout à fait.
Donc regardez s'il y a des conditions générales, il faut qu'elle les lise d'abord très attentivement. Le problème que je vois ici, c'est que la personne a effectivement demandé la réparation ou le remplacement de la chose. Donc a priori, elle ne peut pas résilier le contrat en soi ou tout de suite. Mais si, comme je le comprends, le produit continue à être défectueux, alors il faut qu'elle demande son remplacement car il est inutilisable et doit demander l'annulation du contrat. Madame doit tout d'abord expliquer que le produit, malgré les réparations, continue à avoir des défauts et à ce moment-là, demander son remboursement, espérant juste que l'opticien soit un peu compréhensif.
Mais s'il veut pas être compréhensif du tout.
Alors on rentre dans la partie un peu plus procédurale qui est très enquiquinante. Écrire un courrier recommandé, expliquer la situation, faire valoir ses droits, dire qu'il y a eu des réparations, que les réparations n'ont pas suffi et que ses lunettes sont absolument inutilisables. Et donc, ou vraiment, il y trouve une paire qui fonctionne, ou alors elle se fait rembourser.
On espère que le vendeur soit un commerçant sympa, attentif, coopératif aussi. Quoi.
Oui, Sophie, mais c'est un peu comme toujours. On espère surtout que tout le monde reste
bon et droit.
Et droit.
Mais oui, Maître Alessandro De Lucia, vous n'êtes pas loin. Vous êtes boulevard des...
Je suis tout près de vous, Sophie.
Oui, vous n'êtes pas loin.
Voilà.
Rond-point plein palais, hop, et tac.
On remonte le boulevard des philosophes
là,
sur la gauche.
Il vous attend.
Je suis là.
Il est là en plein milieu.
Dans la rue, voilà. Moins 5, plus 40, je suis toujours là.
Bon, en tout cas, vous êtes retrouvés également en podcast sur Radio Lac. .ch la semaine prochaine, votre collègue Nathalie Eckert, hein, puisque nous faisons un mercredi le droit, un mercredi le notariat. Merci beaucoup à
Merci
vous.
Merci beaucoup, Sophie.
À tout bientôt.
Le meilleur de Lac en replay
sur la nouvelle application Radio Lac.
Go.
Tu es une maman, Carole, et donc la mieux placée dans cette équipe pour parler des relations parents-enfants.
Oh là 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 là, on va parler des parents aujourd'hui, effectivement, parce que le saviez-vous, il y a les parents tigres, les parents drones, les parents bulldozers maintenant. Alors moi, je m'y perds un petit peu.
Les parents tigres.
C'est, oui, c'est ça. C'est un peu le qui est qui de Marie-Ange Nardi. Alors oubliez, hein, si vous êtes né après 95, vous n'aurez jamais la ref. Bref, on est un petit peu dans une société où l'on crée des cases et il faut absolument que tout le monde rentre dans des cases, tranquillou, bilou. Bref, moi, ça m'énerve un petit peu. Je vais pas changer le monde, mais je suis pas là pour dire bouh, c'est pas bien. Hein, je suis juste là pour vous informer. Mais effectivement, il y a de nouveaux parents qui arrivent, à savoir les parents bulldozers. Même si parfois dans le tram, tu vois, j'ai envie d'aller voir la dame là, de lui dire, là, si tu lui mets pas une benne tout de suite, dans 10 ans, tu vas te faire manger toute crue. Mais bon, moi je juge pas, tu fais ce que tu veux. On apprend aujourd'hui qu'il y a plusieurs types de parents. Les parents tigres, ce sont ceux qui se démènent pour inciter leurs enfants à participer à un grand nombre d'activités extrascolaires et à suivre de nombreux cours supplémentaires afin de viser l'excellence.
Tu veux dire, ce sont ces parents qui essayent de vivre un peu leur vie par procuration à travers leurs enfants.
Exactement.
Quoi.
Moi, j'en connais plein des parents tigres. Ils sont relous. Ils se plaignent tout le temps parce qu'ils n'ont pas de temps pour eux. Et quand tu te poses un petit peu puis tu regardes l'emploi du temps des gamins, tu te rends compte qu'en fait, ils ont inscrit le mioche à la gym pour la souplesse, tu comprends, au basket pour développer son esprit d'équipe, à Fabien, à la musique parce que, ouais, il est au conservatoire. Ouais, tu comprends, c'est un prodige. Ouais. Arrêtez de croire que votre progéniture est un prodige. Nous aussi, on a joué de la flûte. Voilà. Hein. Est-ce que, franchement, ça nous aide à payer nos primes d'assurance?
Non.
Certainement pas. On est bien d'accord, ça sert à rien. Il y a aussi les parents drones ou les parents hélicoptères.
Ah.
Voilà, c'est pas...
C'est pas le papa qui... Non, c'est ça.
Qui joue avec son zizi. Pas du tout. Il fait bien ce qu'il veut dans la chambre à coucher. Non, les parents hélicoptères et les parents drones, ce sont ceux qui sont dans le contrôle. Ils veulent toujours le meilleur pour leurs enfants. Ils ont tendance à survoler au-dessus d'eux afin d'intervenir au moindre souci et à l'orienter dans la bonne direction de façon très rapide. Non, Marius, non, tu ne devrais pas te battre pour si peu. Partage ton camion avec le petit garçon. Voilà, ça, ce sont les parents drones ou les parents hélicoptères. Et puis, il y a le fameux nouveau parent bulldozer. Ça aussi, c'est un autre type d'hyperparentalité. C'est le parent... Alors, si le parent hélicoptère, il est plus dans le contrôle sans cesse, le parent bulldozer, lui, il anticipe les moindres faits et gestes de son enfant afin de lui éviter toute difficulté au quotidien. Pas de place pour les obstacles ou les épreuves, non. Le parent, il a déjà résolu à l'avance tous les soucis de l'enfant. Mais malheureusement, on l'apprend quand même, hein, il faut le savoir, cette attitude, elle empêche l'enfant de savoir gérer l'échec et les difficultés. Il y en a beaucoup aujourd'hui des parents bulldozer, ce qui est très très mauvais à la fois pour le développement d'enfant, mais aussi pour sa vie future d'adulte. Voilà, alors par pitié, laissez-les vivre leur vie d'enfant, tout simplement, laissez-les peigner un petit peu, supprimer les téléphones aussi. Hein.
Oui.
Voilà, ça c'est toxique. Voilà, et vous verrez, vous ferez moins de psychopathes en devenir, tout simplement.
Et vous alors, quel genre de parent êtes-vous? Parent tigre, parent bulldozer ou le fameux parent hélicoptère ou drone?
Il te plaît celui-là. Hein.
J'aime beaucoup.
Ah, il te
parent
plaît.
Hélicoptère,
c'est le parent hélicoptère.
J'ai l'image dans la tête maintenant.
Ouh, le papa hélicoptère. Non, ça c'est pas bon, ça s'appelle l'inceste. Stop,
ouais, non,
on arrête.
Attention.
Stop.
Bah,
oui. Non, mais non, il faut surtout pas.
Le meilleur de Lac en replay sur radiolac.ch.
Maman ? Maman ? Maman ?
Hello, c'est Kitri Dulo sur Radio Lac. Retrouvez-moi sur Maman Pourquoi, le podcast éducatif et rigolo qui répond à tous les pourquoi.
Pourquoi ?
Et les comment de nos petits curieux.
Comment ?
Maman Pourquoi, c'est tous les mercredis sur vos plateformes préférées, sur le site et l'application Radio Lac.
Places I've seen, all the faces I know. Been thinking about all the choices I made. Should I stay, should I go? Looking up at the stars, breathing deep, breathing free. They're shining for me. Sky limitless and so much to see. Something's waiting for me.
Marc-Antoine Bossart.
Bonjour Sophie.
Alors Marc-Antoine, c'est le vétérinaire des Suffit de demander, qu'on peut retrouver au centre vétérinaire des Sources à Genève naturellement. Alors on a dit qu'on allait offrir à nos auditrices auditeurs une petite série sur les chiens tendance. Quand on parle chiens tendance, on parle de ces chiens qui, dont l'engouement est énorme, qu'on voit beaucoup sur les réseaux sociaux, hein, et puis surtout dans la rue.
Le chien qui est sur la plus haute marche du podium dans les tendances, c'est le berger australien.
Mais grave. Oh là là, alors mais c'est tellement mignon. Surtout les bébés.
C'est mignon. Bon,
mais oui.
Il ne faut pas entendre mignon par petit parce qu'il n'est pas spécialement petit.
Ah non, on n'a pas dit qu'il était petit.
si on veut faire. Donc, le premier, ce serait le berger australien, dont on, donc on a nommé. Ensuite, il y a le Golden Retriever.
Oui.
Et puis, en trois, il y a le Staffy.
Oh, c'est trop chou, voilà, le Staffy.
Exactement. Actuellement. Hein.
Oui, actuellement.
Après, ça peut changer. Mais ça fait un petit moment que le berger australien est en tête.
Alors, qu'est-ce qu'on peut dire sur ce berger australien?
Oui, alors finalement, il n'a pas grand-chose d'australien parce que ses origines sont basques.
Ah oui.
Voilà,
ah
bah, on apprend quelque chose.
Bah on fait du surf aussi au Pays Basque.
C'est ça. Et donc, bon, de là, il est parti, effectivement, aux États-Unis, il est parti en Australie aussi. Et puis, il est revenu en France.
D'accord.
Et aujourd'hui, il a un grand succès parce que, voilà, c'est un chien... déjà physiquement qui a de la classe, quoi.
Il a toujours des yeux magnifiques, voilà, c'est vrai qu'il exactement. Est c'est un chien à prendre en photo, c'est sûr.
Voilà, exactement. Il sort un peu des canons habituels hein, par rapport au Golden. Voilà, on va dire Golden, ok, une valeur sûre. Mais l'Australien, voilà, il a du succès. Et c'est un chien vif, sportif, intelligent.
Oui.
Et puis, il a besoin quand même d'une éducation, je ne veux pas dire ferme, mais quand même d'une éducation, parce qu'il il a bien sûr l'instinct de berger, c'est-à-dire de rassembler. Mmh. Il n'aime pas beaucoup la solitude, il aime beaucoup être en compagnie.
Donc il faut des maîtres qui puissent l'emmener au...
Il faut quand même avoir une certaine présence.
Ouais, oui.
Si on revient à l'émission... précédente, pourquoi pas,
tout
le
à fait.
De travail. Voilà,
tout
oui,
à fait.
Oui. Il va s'inscrire. En général, ce sont des chiens qui aiment, comme vient de le dire, beaucoup la compagnie, qui sont équilibrés. Et puis, c'est un chien environ entre 20 et 30 kilos. Hauteur entre 45 et 55 centimètres. Voilà, c'est un chien qui doit être brossé, peigné, parce qu'il a
entretenu,
un peu l'âge,
exactement. Et surtout dressé, quoi.
Dressé. Pour qu'on puisse, alors malheureusement, il a des petites faiblesses, parce qu'il y a des chiens, il y a des problèmes de hanches, dysplasie des hanches, dysplasie des coudes.
Ouais.
Il peut avoir des problèmes d'yeux.
Ah, d'accord.
Il y a certains chiens qui naissent avec cécité et perte de vue.
Ouais. Ah, d'accord. Okay.
Et puis, il y a un petit détail, je ne sais pas si on a encore le temps d'en parler.
Oui, 5 secondes.
Voilà.
Dites-nous.
Il y a un déficit, certains chiens, de croisement de ces chiens-là, au niveau d'un gène, qui, en cas d'absence ou de modification, entraîne un manque de détoxication de certaines substances chimiques.
D'accord.
Et donc c'est bien de les tester, parce qu'il y a certains vermifuges, certaines choses comme ça qui ne sont pas recommandées à donner à ce type de chien.
Eh ben, merci beaucoup, la semaine prochaine on parlera du Golden Retriever, puisqu'on fait une série sur les chiens tendances. C'était Marc-Antoine Bossard, à retrouver en podcast sur radiolac.ch. à lundi prochain.
Toute la nuit,
réécoutez vos émissions préférées sur Radio Lac. Your heart is and go. I leave.
Fabien et Carole, on parle de quoi aujourd'hui ?
On parle de quoi aujourd'hui ?
26, 27, 28.
Tu comptes ?
29.
Il est toujours dessus.
30. 31, ouais. 32, je suis en train de faire le
body count.
Exactement.
Le body count, cette nouvelle tendance, ou en tout cas on en parle beaucoup sur les réseaux sociaux et notamment sur le réseau social TikTok. C'est une petite curiosité qui fait son apparition. Et derrière ce terme, le body count, vous allez tous pouvoir le faire, hein, à la maison, dans la voiture, hein, pourquoi pas. Et bien se cache une question délicate et pourtant, combien de partenaires sexuels avons-nous eu dans notre vie ?
102, 103, 104.
Bien sûr. Bien sûr.
Non,
tu sens mon malaise là ? Boulard. Exactement. Non mais si le jeu des chiffres peut sembler anodin, il soulève d'autres questions un peu plus profondes, hein, sur la société, justement, les fameuses normes. Parce que forcément, tout ça, c'est à prendre avec des pincettes. Sur TikTok, hein, on voit de plus en plus de vidéos passer où on fait du body count, donc dans la rue. Typiquement, on arrête une femme et on lui demande combien de partenaires sexuels elle a eu. Alors forcément, il faut être assez ouvert, hein, pour répondre.
Oui.
Mais généralement, voilà, c'est plutôt bien accueilli, les hommes également. Sauf que, si un homme affiche un chiffre impressionnant, hein, souvent il est accueilli par des applaudissements,
oui,
virtuels
sur TikTok.
C'est le
séducteur, c'est le bonjour.
Wow, voilà. Jolie prise. Et quand une femme annonce un nombre considéré comme élevé, les commentaires peuvent être un petit peu plus dégradants, un peu plus empreints de jugement. Voilà, et c'est ça que ça soulève. Des questions forcément sur la perception de la sexualité et des relations à l'ère des médias sociaux. Donc forcément, est-ce que véritablement, voilà, on est égaux face à ça ? Je ne crois pas. Ça s'appelle en tout cas le body count. Mais est-ce qu'un body count élevé, eh bien, soulève un red flag ou simplement c'est un signe de ce qu'on sait, ce qu'on veut dans la vie ?
Alors moi, je dirais, ça dépend de chaque personne. Le chiffre ne fait pas ni la qualité, ni la personnalité, finalement.
Effectivement, mon cher Fabien, la bille ne fait pas le moine. Mais je trouve aussi, à un moment donné, si tu dis à 16, c'est pas parce que t'es une femme que 16...
C'est beaucoup.
T'es une traînée,
exactement,
tu vois.
Mais voilà,
exactement. Moi,
pourquoi
je suis un petit
cet
peu d'accord.
Accent, ça, j'ai pas la réponse.
Je sais pas non plus, parce que je pense de faire la cagolette du Sud,
c'est
au final.
Ça.
Ça soulève un body count un peu plus élevé.
Forcément, j'interroge quand même. Enfin, je m'interroge sur
c'est très cliché, ça.
Sur la différence homme-femme, sur les réponses qui peuvent être apportées. Moi, je pense que les hommes gonflent un petit peu volontairement
c'est
le nombre
gonflé.
De partenaires.
Et peut-être qu'à contrario, les femmes minimisent un petit peu le tout, tu vois, en disant ça, c'était un truc d'un soir, je vais même pas le compter. Parce qu'au final, un truc d'un soir, ça compte pas réellement. Il se souvenait même pas de mon prénom le lendemain.
Hein, je vais toujours faire croire que c'est le premier.
Hein, oui, exactement, voilà. c'est ça. Bref, en tout cas, le body count, ça existe et ça soulève aussi des questions dans notre société.
Le meilleur de Lac, en replay
sur la nouvelle application Radio Lac.
Just remember who I was that day. I'm gonna break. avec Sophie Gaillard sur Radio Lac.
Il suffit de demander.
Il suffit de demander.
Il n'est jamais dans la lune, il a bien les pieds sur terre. C'est Eric Ashkar, bonjour.
Bonjour Sophie.
Eric Ashkar, alors justement, vous faites un jeudi, une planète. On parle de notre système solaire dans l'astronomie sur Radio Lac. Et on va parler de la lune.
Oui, effectivement, aujourd'hui.
On a marché sur la lune.
Aujourd'hui, j'ai la tête dans la lune.
Bon, alors, qu'est-ce qu'elle nous raconte, cette lune?
Alors, la lune, c'est le satellite de la Terre. Ouais. C'est l'astre de la nuit qui nourrit l'imaginaire collectif, qui fait que quand on regarde une belle pleine lune par une nuit de campagne, on se sent porté par une forme de magie. Eh bien, la Lune, c'est donc notre astre, qui tourne autour de la Terre. Et je vais un petit peu la décrire parce qu'elle est très intéressante. Donc déjà, son diamètre, elle fait un quart, donc 25% le diamètre de la Terre, donc un quart du diamètre de la Terre. Et si l'on veut positionner la Lune relativement à la Terre, imaginons que nous prenons la Terre qui fait 12 700 km de diamètre, eh bien on va prendre 30 fois notre planète Terre qu'on va mettre bord à bord, et cette distance de 30 diamètres terrestres va nous donner la distance de la Terre à la Lune. Donc elle est relativement loin de nous en rapport de taille par rapport à la taille de la Terre. Elle a une surface solide, comme la Terre et comme les planètes que nous avons décrites ces dernières semaines. Elle n'a pas d'océan, il n'y a pas d'eau liquide au sens de grande étendue d'eau. D'ailleurs, on le voit au télescope, on voit qu'elle a une surface principalement rocheuse. Elle a une atmosphère, mais qui est extrêmement ténue, donc elle est peu dense. Et la masse de l'atmosphère globale de la Lune ne fait que 10 tonnes, c'est-à-dire qu'il n'y a quasiment rien.
Ah oui, quand même.
Oui, mais 10 tonnes réparties sur une grande surface ne représentent quasiment rien.
D'accord, ok, c'est vrai.
Un jour lunaire, donc la durée d'un jour, si on habite la Lune, dure 27,3 jours, mais c'est aussi la durée de révolution de la Lune.
Un jour, c'est 27 heures.
Un jour, c'est 27 heures.
Ouais, vous avez... Oui.
Alors, un jour sur la Lune, c'est 27 jours terrestres.
Ah d'accord, ok, pardon.
Donc, quand on est sur la Lune, il faut attendre 27 jours terrestres pour faire une révolution lunaire, mais c'est aussi la même durée que la Lune met pour faire un tour de la Terre, ce qui fait qu'elle présente toujours la même face à la Terre. C'est pour ça que quand on la regarde en premier quartier, en pleine Lune ou en dernier quartier, on verra toujours la même face orientée vers nous. Et sa présence, en fait, a permis de stabiliser l'axe de rotation de la Terre à 23 degrés. Parce que sans la présence de la Lune, cet axe stabilisé, en fait, ballotterait avec des angles qui varieraient très rapidement. Et ce qui empêcherait une stabilité de notre climat et qui peut-être aurait pu empêcher l'émergence de la vie. Donc peut-être que la Lune, par sa présence, par le fait qu'elle ait stabilisé l'axe de rotation de la Terre, a peut-être permis l'émergence de la vie à la surface de notre belle planète. Donc la Lune, elle est très cratérisée, on peut le voir au télescope. Et si l'on veut s'attarder sur trois objets sur la Lune, on prend une carte de la Lune sur Internet et avec une petite lunette, cela vaut le coup de regarder le cratère Copernic, Tycho et Platon.
Copernic, Tycho et Platon. Eh bien c'est noté, on va tous faire ça. Merci.
Merci Sophie.
À la semaine prochaine. Voilà, c'était Eric Ashkar, à retrouver en podcast sur radiolac.ch et la chronique astronomie.
Le meilleur de Lac en replay
sur radiolac.ch.
Walked outside the crowded streets, took a break from everything, had stopped the marathon. Close my eyes just for a second, I knew it will be fine. Everybody's running fast, gotta catch up with the guys. Soon they will be where we fall. From the side I see them, they are sad. They're searching for something. Late night, there is my only love. She's waiting. Late night, I can see falling stars. Before they will disappear, I'll make a wish. Stepped outside the country pub, gold moon was shining high. Had to tell you I'm alright, but I knew that you were sleeping now. Wanted you so much. Late night, beautiful harvest moon. I'm on my way to.
crowded street. Took a minute just to breathe, let the mind rest for a bit. Saw the colors of the rainbow fade, so far. My only love, I'm coming home to her now. I know she's waiting. Late night, I can see falling stars. Before they will disappear, I'll make a
Le statoscope de Fabien et Carole.
Parlons aujourd'hui du bonheur. À quel âge sommes-nous le plus heureux ou la plus heureuse? C'est l'étude du jour, une étude qui nous emmène en Australie où des chercheurs ont recoupé plein d'études différentes, plein de chiffres, de statistiques, de sondages pour essayer de déterminer l'âge du bonheur. Selon toi, quel serait cet âge parfait pour être heureux, Carole?
On a tendance à dire que quand on est jeune, on est heureux, on est insouciant, on n'a pas trop de soucis. Moi, j'ai toujours entendu qu'à la vingtaine, il fallait vivre et profiter à fond parce que c'était l'âge idéal. Mais en vieillissant, j'ai l'impression qu'on me dit souvent « Ah, mais t'as bientôt 40 ans !»« Ah, mais tu verras, c'est l'âge où tu seras la plus heureuse. » Alors, on me dit « La plus heureuse, la plus belle.
»
Je ne sais pas ce qui m'attendra plus tard, du coup, parce que je vais, je vais devenir moche, apparemment. Je ne vais plus du tout être heureuse. Enfin, c'est compliqué,
Détrompe-toi, détrompe-toi, Carole. Ne vois pas l'avenir et l'âge comme quelque chose de négatif, puisque cette étude le confirme. On serait les plus heureux aux alentours de 60 ans.
Ah bon ?
Véritablement.
On a encore de beaux jours devant nous, alors.
Mais exactement. Donc, en tous les cas, ça a de quoi nous réjouir. Peut-être un peu moins celles et ceux qui ont 20 ans et qui se disent « Et donc, c'est pas pour tout de suite le bonheur. » Pourquoi l'âge de 60 ans ? Eh bien, ces scientifiques se sont rendus compte que c'était l'âge, finalement, auquel on était le plus enclin à avoir une stabilité. Et c'est la stabilité qui entraîne le bonheur. Je m'explique. Stabilité dans les sentiments, stabilité au niveau professionnel. Bon, à 60 ans, on arrive en fin de carrière, généralement. Stabilité dans tout un tas de choses.
Ouais.
Et c'est cette stabilité qui engendrerait le maximum de chances, finalement, d'être heureux. Ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas être heureux à d'autres moments de sa vie, mais c'est véritablement un peu le summum, la pointe du bonheur aux alentours de 60 ans.
Bon, après, tu l'as dit, ça fait quand même très long d'attendre la stabilité, quand même. Parce qu'il faut attendre 60 ans. J'en suis loin, quand même, de la stabilité. Bah, j'aime bien dire que je suis loin de la stabilité.
C'est ça, loin des 60 ans.
Ouais.
Mais tu es quasiment aussi loin des 60 que des 20. Hein, je veux pas dire, je veux pas être mauvaise langue, mais
c'est un peu quasiment plus proche des 60 que des 20. Quoi,
voilà. Donc, en tous les cas, il faut pas voir l'âge et le fait de vieillir comme quelque chose de négatif, puisque pour beaucoup de personnes, eh bien, quand on approche de la soixantaine, on est plus heureux, plus stable. C'est vrai qu'on a vécu plus de choses, donc un peu plus serein aussi. C'est peut-être ça.
Ouais, mais ne soyez pas aigris, par contre, parce que j'ai vraiment l'impression que les gens qui ont 60 ans et qui sont aigris, ils sont pas très très heureux.
Ouais, c'est
il faut pas vivre. C'était mieux avant, faut pas le dire trop souvent.
Non, voilà.
Je pense.
Mais exactement, alors qu'on le dit à peu près tous les jours.
C'est vrai.
Que c'était mieux avant. On est tout un tas de. On est tout en complexité chaque matin.
Oh, c'était mieux avant.
C'est ça,
Voilà. On n'avait pas besoin de ça.
Et vous alors, quel est l'âge du bonheur selon vous? Est-ce que vous l'avez déjà vécu le bonheur ou est-ce que vous espérez le vivre peut-être bientôt? 079-918-3000. 079-918-3000. Message texte ou note audio. Ce qui me fait bien sûr penser à ce grand philosophe français, Christophe Maé. Il est où le bonheur?
Il est où? Mais il est là.
Bah non, il n'est pas là.
Ouvre tes yeux.
En tous les cas, pas Christophe Maé.
Ah
mais
non,
le bonheur,
il
est là, c'est certain.
Oh mais non, mais moi j'ai cru qu'on l'écoutait, Fabien.
Allez, je te promets une prochaine fois.
Toute la nuit,
réécoutez vos émissions préférées sur Radio Lac.
You didn't want to fight this war. No, you didn't want to life this hard. But your head is playing all these games, and the tears are streaming down your face. Breathe in, breathe out now. Now the storm will cease.
subside, subside. Breathe in, breathe out now. The war has reached its time.